Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épontre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
After the holidays, a little cash goes a long way. The Chime checking account has tons of benefits to help, like fee-free overdraft up to $200 for eligible members, no monthly fees, and thousands of fee-free ATMs. You can even get paid up to 2 days early with direct deposit. Sign up for Chime today at chime.com/goals24.
Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Out-of-network ATM withdrawal fees may apply. Access to direct deposits up to 2 days early depends on the timing of the submission of the payment file from the payer.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Gwenola Ricordo.
Et lorsque on ne regarde pas simplement qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de l'emprisonnement de certaines personnes, ce qu'on voit, c'est que la prison affecte énormément la vie des femmes, enfin la vie de certaines femmes.
Bon anniversaire tout le monde! On approche du mois de mars, ça va faire bientôt un an que nous sommes plus ou moins confinés, complètement coupés de notre vie d'avant, celle où on allait boire des coups dans des bars et écouter des gens dans des salles. Cette saison, la poudre devait se dérouler intégralement dans l'auditorium du carreau du temple et j'étais vraiment folle de joie à l'idée de sentir vos présences, vos souffles, vos chaleurs. Alors je suis un peu frustrée, mais ma petite contrariété n'est pas grand chose comparé à celle des artistes scéniques. Et en ce moment, mon cœur se serre souvent quand je pense à Clara, Iseult, Aloïse, Jeanne, Mélissa et les autres, privés de leur milieu naturel. Donc je leur envoie un peu d'amour en passant, parce que j'ai envie, et c'est comme ça. Enfin voilà, on s'adapte, et donc ça fait quelques mois que je fais mes conférences sur Zoom. Et il y a un bon côté, c'est que je peux parler avec des gens qui sont loin, comme la chercheuse Gwenola Ricordo, qui enseigne en Californie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Gwenola Ricordo est la dernière chercheuse qui m'a retourné le cerveau. À cause d'elle, je ne peux plus lire des phrases comme « la fin de l'impunité » sans ressentir un petit dégoût. À cause d'elle, à chaque fois que je vois le gouvernement répondre aux violences par un durcissement, la répression pénale, je hoche tristement la tête. À cause d'elle, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse des prisons, des cours d'assises et de tout ce système pénal finalement incapable de répondre aux véritables besoins des victimes ni de protéger quiconque des violences sexistes et sexuelles. Vous allez sortir de cet épisode avec la même certitude. Vous verrez, ça fait drôle. Avec Gwenola Ricordo, on a parlé de prison, de victimes et de justice.
Gwenola Ricordo, vous êtes sociologue, professeure en criminologie à la California State University. Et surtout, vous faites partie des chercheuses qui font que j'adore faire ce métier. Parce que vous m'avez fait évoluer et comprendre. Alors, vous avez mené des recherches approfondies pendant plusieurs années en sociologie auprès des proches des personnes incarcérées. Vous avez publié plusieurs articles et une thèse qui est devenue un livre sur le sujet. Mais ce qui m'a fait vous connaître, c'est ce petit livre que vous avez publié il y a quelques mois et qui m'a donné vraiment très envie d'échanger avec vous, « Pour elles toutes, femmes contre la prison ». Ce livre répond de façon très synthétique, très documentée, à deux questions principales. Pourquoi le féminisme majoritaire se trompe en exigeant du système que les auteurs de violences sexuelles et sexistes soient punis pénalement? Et il répond aussi à la question « ce que la prison fait aux femmes ». Une fois ce livre lu, on ne peut plus penser de la même façon. C'est un véritable retournement qui a eu lieu dans mon cerveau parce que j'ai fait partie presque machinalement de ces féministes qui réclamaient pour les violeurs, notamment la fin de l'impunité. Est-ce que votre objectif avec ce livre, c'était de vulgariser et de convaincre ?
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie du travail politique et puis ça fait aussi partie, à mon sens, d'une forme de devoir que j'ai lié à ma position et à mon statut qui fait que depuis assez longtemps maintenant, je connais assez bien ce qui se pense, ce qui s'écrit aux États-Unis, que je connais bien les réflexions des milieux abolitionnistes, l'histoire de ces mouvements. Et du coup, je pense que quand on est universitaire, quand on a la chance d'avoir accès à un certain nombre d'écrits, notamment des écrits scientifiques, il y a une forme de devoir de vulgarisation. Et puis après, il y a le travail politique, le travail militant, qui est d'essayer de faire bouger les lignes. Hein. C'est le propre du travail politique. Et ce livre est né de cette position que j'ai depuis très longtemps, d'inconfort par rapport au courant majoritaire des mouvements féministes, en particulier en France aujourd'hui.
Alors, on en parlait un petit peu avant de se connecter tout à l'heure. Vous avez le sentiment ces dernières années que les choses ont bougé. Enfin, depuis un an ou deux, vous me disiez que vous avez l'impression que ces idées-là prenaient de plus en plus de place dans le mouvement féministe. Pourtant, moi, depuis une semaine que la conférence a été annoncée, j'ai entendu des femmes hurler « Mais comment ça? C'est pas possible. La prison, c'est très important. » Vous vous revendiquez clairement comme militante abolitionniste pénale et comme féministe. Voilà. Ça peut paraître contre-intuitif et je voudrais rassurer les personnes qui se sont un peu affolées sur les réseaux sociaux. Je vais rassurer ma maman aussi en lisant la première page de votre livre, si vous êtes d'accord, Gwenola. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien parce que ça ne se fait pas, parce que la police n'a rien fait la dernière fois. Parce qu'on ne les a pas crues lorsqu'elles étaient enfants, parce que ce n'est pas si grave et qu'il avait peut-être le droit. Celles qui ne disent rien car elles savent qu'on ne les croira pas, car elles sont trop tox, trop vieilles, pas assez jolies, pas assez sexy, trop grosses, trop handicapées, pas assez féminines. Celles qui ne disent rien car elles ont peur qu'on ne les croit pas, parce qu'elles n'écrivent pas assez bien, parce qu'elles ne sont pas blanches, parce qu'elles ne se souviennent plus très bien. Celles qui ne disent rien parce que c'est leur père, parce qu'il est policier, parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat, parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Celles qui ne disent rien parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde qu'il n'y a pas idée de sortir la nuit, de sortir dans cette tenue, de sortir toute seule, qu'il n'y a pas idée de boire, d'inviter un homme chez soi, d'aller sur un site de rencontre. Celles qui ne disent rien parce que pourquoi le dire maintenant ? Celles qui ne disent rien car elles se demandent si ce n'est pas un peu leur faute. Celles qui ne disent rien parce qu'elles l'aiment. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. J'ai une grande émotion en relisant ce passage. C'est un texte vraiment magnifique qui se poursuit sur plusieurs pages. Pourquoi vous avez voulu ouvrir votre livre avec ces mots ?
Parce que quand on parle du système pénal et de la prison. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait oui, il faut préciser abolitionnisme de la prison, parce que c'est vrai que
lorsqu'on va le faire, je rassure.
Dans les discussions féministes, c'est vrai que le terme abolitionniste est plus souvent associé à la question du travail du sexe ou de la prostitution. Mais bon, c'est vrai que quand on parle de la prison, lorsque l'on parle de la victimation des crimes, on parle d'expérience intime. On sait que la victimation sexuelle est sans doute l'une des expériences que les femmes ont le plus en commun. Ça fait partie de la condition d'être une femme, d'avoir soit sa propre victimation, soit savoir que ça fait partie de la condition d'être femme. Et donc, quand on parle de ces sujets-là, on parle forcément de quelque chose qui est compliqué, qui touche à la fois à notre intimité, mais aussi à des expériences qui sont extrêmement diverses, et on pourra y revenir, mais autant le fait d'être victime que d'être criminalisée, d'être incarcérée ou d'avoir des proches incarcérés, ça ne se joue pas de la même façon selon si on est blanc, blanche, ou si on est une personne racisée, selon sa catégorie sociale. Et donc, il y a des expériences de la victimation, comme il y a des expériences de la prison. Et ce qu'on voit, le retour que j'ai aussi le plus souvent, c'est que pour les catégories de personnes qui subissent le plus des systèmes d'oppression. Et donc, je pense en particulier aux femmes issues de l'histoire de l'immigration ou de l'histoire coloniale, lorsqu'elles sont victimes de violences à caractère sexuel, notamment dans le cadre familial ou par des auteurs qui sont dans l'entourage familial ou qui sont eux-mêmes des personnes issues de l'immigration ou de la colonisation, bah on voit aussi qu'il y a des conflits qui se font parce que bah là, on touche aussi à des formes de loyauté. Donc, j'ai voulu commencer le livre par ce texte très personnel, en sachant que c'était aussi une façon de dire que, même si mon propos parfois peut être difficile à entendre, parce que j'entends très bien qu'il peut heurter, en même temps, je veux que ce soit une invitation à essayer d'entendre d'autres voix. Et notamment parce que on le sait, lorsque on a subi des formes de victimisation graves, le temps fait voir aussi les choses de différentes manières. Et que du coup, je pense que des fois, ce que je peux dire peut heurter certaines victimes qui sont à un moment de leur temps en tant que victime, hein, dans leur parcours de victime. Et voilà. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire aux personnes qui sont là ce soir, parce qu'on est dans un moment qui est aussi, je pense, très compliqué pour beaucoup de gens, avec toute la médiatisation qu'il y a autour le livre de Camille Kouchner. Je sais que ça réveille beaucoup de choses. Ça parle à la fois à nous, adultes, mais pour certains d'entre nous et certaines d'entre nous, ça parle aussi à l'enfant qu'on a été, voilà, au silence qu'on peut entourer à la fois des violences familiales, des violences à caractère sexuel. Tout ça est très compliqué. Voilà, c'était aussi une façon de le reconnaître et d'appeler chacun, voilà, aussi à prendre ça avec sa propre subjectivité et d'écouter d'autres subjectivités.
Ouais, de rappeler la multiplicité des expériences. Et je pense que ce texte, il a aussi une force, c'est qu'il pose les termes de votre livre dans un champ qui est celui du féminisme. C'est vraiment une réflexion féministe que vous menez sur cette question de la prison, de la justice pénale. Et vous avez des mots assez durs pour le féminisme dominant qui réclame une pénalisation toujours plus grande des délits de violence sexiste et sexuelle. Quelle est, selon vous, sa principale erreur ?
Alors, sans doute que son erreur, peut-être que le mot erreur, faudrait y réfléchir, mais c'est sans doute une forme de refus de penser qui est le sujet du féminisme. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'implicite dans les courants dominants du féminisme que les femmes auraient à gagner à recourir au système pénal, hein, à ce qui est davantage de criminalisation. En fait, lorsque ces courants dominants du féminisme appellent à criminaliser les hommes, elles font appel à un outil, l'outil du système pénal. Donc, le système pénal, c'est toutes les institutions qui vont de la police aux tribunaux, à la prison. Et donc, quand on fait appel à ce système-là, qui est un système foncièrement raciste, bah en fait, on appelle à criminaliser davantage les hommes issus de l'immigration et de l'histoire coloniale. Pour dire les choses peut-être autrement, mais par exemple, lorsqu'il y a eu cette sorte d'unanimité autour de la criminalisation du harcèlement de rue, hein, il s'agissait en fait d'appeler à criminaliser certains hommes, alors plutôt des hommes jeunes dans les quartiers populaires, en fait, c'était pas qu'ils étaient dans les quartiers populaires, hein, c'était aussi qu'ils étaient issus de l'immigration et de l'histoire coloniale. Donc, en fait, on appelait à criminaliser certains hommes. Et donc, à mon sens, c'est là qu'est le problème avec le féminisme dominant. C'est, on pourrait dire, c'est son manque d'inclusivité. Hein, c'est qu'il ne pense pas des femmes qui ne sont pas blanches. Il ne pense pas, il y a d'autres catégories de femmes d'ailleurs auxquelles il ne pense pas. Mais du coup, je dirais que c'est ça le péché originel. Alors après, ça se décline de diverses manières, et notamment par le fait que ce féminisme dominant nous dit à la fois il faut davantage criminaliser, il faut davantage porter plainte, il faut même systématiser les procédures pénales, donc le fait d'enclencher des enquêtes, etc., mais sans nous dire quelles seraient vraiment les conséquences d'un tel projet. On le sait bien, il y a au moins 50 000 viols par an en France. Le viol est un crime pour lequel les auteurs encourent une peine de 15 ans hein, lorsqu'il n'y a pas de circonstances aggravantes. En fait, si l'on dit il faudrait mettre au moins 50 000 hommes tous les ans en prison hein, pour une période d'au moins 15 ans, vous voyez, ça ouvre sans doute d'autres débats. Hein. Est-ce qu'on veut, aujourd'hui il y a 70 000 personnes qui sont en prison en France, est-ce qu'on voudrait que notre projet de société ce soit d'ajouter 50 000 personnes tous les ans en prison hein, et donc d'avoir très vite une montée du nombre de personnes qui sont en prison à quelques centaines de milliers tous les ans, donc de construire au moins une dizaine de prisons par département. Et puis, évidemment, la question qui vient d'après, c'est est-ce que ça marcherait ? Est-ce que ça marcherait à la fois sur le niveau des crimes hein, en gros, est-ce que la punition de certains auteurs ferait baisser le niveau de criminalité ? Et puis, l'autre question qui est au moins aussi importante, c'est dans ce programme-là, est-ce que les victimes, quelle serait la satisfaction des victimes ? Répondrait-on vraiment aux besoins des victimes ? Donc là, ça ouvre la question hein, de quels sont les besoins des victimes ? Est-ce que les besoins des victimes peuvent se réduire à la punition de certains auteurs ?
Vous avez cette phrase que je trouve extrêmement pertinente. Vous dites que les féministes ne rechignent jamais à admettre que le système est patriarcal et raciste. Pourquoi se tourner vers ce système comme un allié soudainement alors qu'on passe notre temps à le dénoncer ? Et c'est vrai que ça fait mal à entendre, mais c'est très juste. Et ce que vous démontrez aussi, c'est que le fait de réclamer une pénalisation toujours plus grande des délits, on le retrouve aussi dans le mouvement antiraciste, dans le mouvement de lutte contre l'homophobie. Il y a une criminalisation des délits et des crimes racistes, des délits et des crimes homophobes. Et en fait, vous dites que finalement, ce qui est en jeu, c'est toujours le fait de punir les individus et l'incapacité de s'attaquer à ce qui fait réellement problème, qui est le système. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les luttes militantes, en fait. Le sexisme, le racisme, l'homophobie, ce ne sont pas des problèmes de moralité individuelle. C'est ça que vous essayez de dire.
Oui, et on peut... Alors, évidemment, on évoque avec les idées abolitionnistes, en fait, un foisonnement d'idées, de perspectives critiques qui ont été portées sur le système pénal. Mais on peut... notamment s'interroger sur le rôle qu'ont ces condamnations de certains auteurs. Hein, et ces condamnations qui ont finalement une forme exemplaire. On condamne une personne en renforçant certains stéréotypes qui existent autour de qui seraient les auteurs. Hein, et donc, finalement, ça participe à faire des auteurs une sorte de catégorie à part dans la société. Alors, d'un point de vue de la recherche, il y a assez peu d'éléments de réponse, mais quand même certaines recherches estiment qu'on aurait sans doute entre 5 et 10% des hommes qui auraient soit commis des viols, soit commis des agressions sexuelles. Certaines recherches donnent des pourcentages encore plus élevés, mais toujours est-il qu'on n'a pas affaire à des cas exceptionnels, on a affaire plutôt à des cas d'une certaine banalité et encore plus en fait, lorsqu'on ajoute des formes de complicité, de silence, hein, que en fait, les agressions sexuelles, les crimes à caractère sexuel, mais comme d'ailleurs d'autres crimes, n'arrivent pas en raison d'une pathologie individuelle, hein, d'un problème individuel, d'individus problématiques. Hein. On a plutôt des structures sociales qui permettent à ces actes de se produire. Et du coup, c'est vrai que le système pénal a cet avantage-là de détourner l'attention de systèmes qui produisent des injustices, qui produisent de la souffrance, pour finalement désigner quelques individus. Hein, et finalement, ça facilite la vie un petit peu de tout le monde, hein, d'avoir à désigner certains auteurs.
Ouais, on désigne les monstres, c'est toujours des monstres, des êtres à part qui seraient complètement déviants et on passe à côté des véritables sources de fabrication en fait de ces monstres. Alors je vois dans le chat énormément de personnes qui demandent, mais alors on fait quoi ? Et alors c'est la question, je voulais qu'on y arrive à la fin parce que je voulais suivre un peu la construction, la réflexion de votre livre, mais je sens une véritable impatience. Alors peut-être qu'on va commencer par là, et puis après on fera le parcours que je voulais faire dans l'interview. Par quoi on remplace ce système de justice pénale ? Alors comment on apporte satisfaction, consolation, réparation aux victimes si on se passe de tribunal et de prison ? Quelles sont les alternatives possibles ?
Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est de dire, en fait, lorsqu'on regarde le système pénal, on voit en fait qu'il a un coût social. Donc, on ne parle pas simplement des coûts financiers, hein, mais de son coût social, son effet social est totalement désastreux. C'est-à-dire qu'il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Lorsque l'on dit ça et qu'on se dit, voilà, on a face à nous un système qui fait problème, l'idée, ce n'est pas de le remplacer. On éradique un problème, on ne le remplace pas. Ça viendrait à personne, à l'idée de personne de dire, ah, vous voulez éradiquer la peste, mais alors par quoi vous allez la remplacer? Voilà. Alors, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui répondra peut-être plus en fait, au sous-entendu de la question qu'il y a lorsque on demande quelles alternatives, c'est alors plusieurs formulations. On peut dire d'une première façon, parmi les abolitionnistes, il y a tout un courant qui dit voilà, la question c'est l'État, hein, avec le système pénal, et du coup, on est foncièrement dans une position révolutionnaire. On n'arrivera pas à abolir le système pénal sans abolir également le capitalisme, le suprématisme blanc, le patriarcat, etc. Cette position, elle n'est pas tout à fait incompatible avec une autre qui se développe beaucoup depuis une dizaine d'années, qui est celle de la justice transformative. Et je vois que certaines personnes ont déjà commencé à parler de ça sur le chat. Pour expliquer la justice transformative, on peut dire que ça part de la critique du système pénal et notamment du fait que avec le système pénal, on a à la fois très peu de personnes, quand on parle de la victimation sexuelle, on a à la fois beaucoup de victimes qui ne sont pas prises en charge par le système et puis celles dont l'affaire est prise en charge par le système pénal, ça répond assez mal à leurs besoins. Et la justice transformative dit, en fait, inversons la logique du système pénal qui est centrée sur un auteur qu'il faut trouver et donc la responsabilité individuelle et du coup le prononcer d'une peine avec cette idée qu'il y aurait une forme d'équivalence entre le tort qui vous est fait et la peine qui a été prononcée. Donc ça, c'est le système pénal et la justice transformative fait une sorte de changement total de cette perspective en disant, en fait, on ne va pas partir d'un auteur. Certes, il y a un auteur qui est responsable, il ne s'agit pas de déresponsabiliser un auteur, mais il faut aussi voir les circonstances sociales, la structure sociale qui permet cette situation, ce crime de se produire. Et puis, l'enjeu, ce n'est pas simplement l'auteur, c'est l'auteur, la victime et la communauté ou la société, selon le vocabulaire qu'on va utiliser. Et du coup, alors un des aspects de la justice transformative, c'est de changer les structures sociales. Donc, on est évidemment dans quelque chose qui est du long terme. Et puis, d'apporter des réponses aux besoins des victimes. Et les besoins des victimes, c'est pas la punition d'un auteur. Alors, parce qu'il y a souvent des malentendus sur cette question-là. Les victimes éprouvent des besoins de vengeance. Mais ces besoins-là sont souvent des besoins en réaction. Mais leurs besoins sont beaucoup plus complexes. Et le système pénal, en fait, répond essentiellement à ce besoin de punition et un petit peu au besoin de protection qu'ont les victimes. C'est-à-dire que lorsque vous incarcérez quelqu'un, une victime peut se sentir protégée. Vous voyez, j'utilise beaucoup de précautions parce que non seulement les auteurs ressortent, mais surtout, lorsque vous avez l'expérience de la victimation, vous n'avez pas simplement l'expérience d'avoir été victime une fois et d'avoir été victime d'une personne en particulier, mais ça ébranle en fait votre relation au monde, aux autres, et du coup, votre besoin de protection, il n'est pas simplement d'être protégé de cette personne en particulier, mais d'autres situations, d'autres personnes. Donc, lorsqu'on met quelqu'un en prison, oui, pour certaines victimes, ça va être un soulagement, mais en même temps, il va y avoir d'autres angoisses. Il y a l'angoisse de quand la personne va sortir, d'autres... voilà. Donc, pour en revenir à la justice transformative, il y a cette idée de partir des besoins des victimes, qui sont des besoins donc à la fois de protection, de reconnaissance, de donner du sens, des besoins aussi des agresseurs ou des auteurs, parce qu'il y a aussi des besoins de ce côté-là. On ne transforme pas une personne en l'enfermant. Et donc, là aussi, il y a des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, surtout lorsque on voit les évolutions qu'il peut y avoir dans certains milieux militants, où il y a une forme de pureté militante qui consiste à gérer les problèmes par des formes d'exclusion. Alors, évidemment, ça se comprend tout à fait parce que c'est une réaction à des formes de solidarité hein, qui sont aussi extrêmement fréquentes. Mais dans la justice transformative, il y a un autre point de vue qui est évidemment de dire qu'il ne s'agit pas d'être solidaire avec les agresseurs, avec les auteurs, mais bien d'entourer socialement, d'une certaine façon, ces personnes-là pour permettre une évolution, pour permettre un changement. Hein, parce que, évidemment, ça ne se produit pas comme un miracle. Bon, voilà très vite comment la justice transformative se pense, et se pense notamment en opposition avec la justice pénale. Après, ce qui me semble important de dire, c'est que la justice transformative, elle est née des besoins des personnes qui n'avaient pas accès au système pénal pour se protéger. C'est-à-dire que, on le sait bien, l'accès au système pénal, et notamment en tant que victime, demande d'avoir un certain nombre de caractéristiques. On sait qu'on n'est pas cru de la même façon selon ses caractéristiques sociales, si on est blanche ou si on est racisé, selon, par exemple, si on a la citoyenneté ou pas la citoyenneté d'un pays. Et donc, les différences qui existent entre les victimes et le fait que pour certaines victimes, il n'y ait pas la possibilité d'obtenir une prise en charge par le système pénal, c'est ça qui a nourri les pratiques de justice transformative. Et donc, c'est pour ça que c'est né essentiellement dans des communautés de personnes parmi les plus exclues, les plus vulnérables socialement, donc en particulier des travailleurs et travailleuses du sexe, des communautés LGBT, avec des personnes racisées, sans papier, qui de toute façon n'avaient pas la possibilité ou auraient pris davantage de risques pour elles et pour leurs proches en allant au commissariat, par exemple.
Ouais, bah y a énormément de choses que j'ai envie d'ajouter à ce que vous venez de dire. Je voulais parler de ce livre qui est moi le premier accès que j'ai eu à cette réflexion anticarcérale d'Angela Davis. Est-ce que les prisons sont obsolètes ? Et rappeler qu'en France, il y a une seule association féministe qui revendique véritablement cet abolitionnisme pénal, c'est Moissy, l'association afro-féministe. Et en fait, ce sont des problématiques qui sont très liées, comme vous venez de le rappeler. Moi, j'ai été sur le banc des parties civiles dans un procès au pénal en tant que victime, en tant que famille d'une victime. Et vous dites dans votre livre, ça me met les larmes aux yeux de le dire, que dans un procès, on ne trouve pas la vérité, on ne trouve pas le sens, et on ne trouve pas la sécurité. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Même si l'auteur a été emprisonné, je continue à avoir peur. Je ne sais toujours pas pourquoi le crime a été commis. Et c'est effectivement en rien les victimes qui sont au centre d'un procès. C'est vraiment, on ne nous écoute pas en fait. On est là juste pour écouter l'histoire de l'auteur. Et Dieu sait que pourtant je suis privilégiée, je suis blanche, je suis lettrée, je suis diplômée, mais... Et effectivement, vous soulignez que c'est une réflexion qui naît beaucoup dans les milieux féministes non blancs.
Il y a des cas rares où il y a une vraie rencontre qui se fait, une vraie parole qui existe dans les cours d'assises. Ça arrive parfois. Je dis ça parce que je l'ai vu aussi. Mais je pense que le plus important à dire, c'est que tout est fait pour que ça n'arrive pas, en fait. Que tout est fait à la fois pour que la personne qui est poursuivie n'est pas cette parole-là, n'est pas cette parole juste. Voilà, personnellement, ça me fait toujours beaucoup de peine pour les victimes qu'on les prive de ça, en fait, hein, que ce face-à-face ne permette pas une autre parole qu'une parole de défense d'un côté, hein, parce que c'est bien normal, quelqu'un qui est poursuivi se défend, n'a souvent pas beaucoup d'intérêt à reconnaître sa culpabilité, et du coup, on a des familles, des parties civiles, des proches, des victimes, qui ressortent avec ce sentiment d'avoir été à nouveau bafoué, à nouveau victimisé. On parle en victimologie d'une victimation secondaire qui arrive avec la procédure pénale. Et quelque chose d'encore plus important dans tout ce système-là, c'est que il y a à la fois toutes ces victimes, ces parties civiles qui subissent cette procédure pénale, mais ce qui est encore plus grave, c'est cette croyance en fait qui est entretenue qu'avec le procès, il va se passer quelque chose. Ça, on le... Enfin, voilà, moi, personnellement, c'est une des choses qui me fait le plus de peine. Ce n'est pas simplement que les gens croient à la justice de leur pays, hein, ce qui est toujours une expression d'une grande naïveté, mais c'est qu'elles disent « le deuil va pouvoir commencer ». Quelle tristesse, en fait, se dire tout ce temps-là pour penser que le deuil va pouvoir commencer. Mais en fait, il y a beaucoup de situations où il n'y aura pas de procès, où le procès sera insatisfaisant. Pourquoi avoir attendu et laissé penser aux gens qu'il fallait qu'ils attendent le procès pour commencer le deuil? Pourquoi laisser penser que la vérité serait la vérité judiciaire? Tout ça est un gâchis énorme pour les victimes. Et finalement, ce que l'on voit dans les mouvements féministes, mainstream, et lorsque l'on parle de cette sorte d'injonction à porter plainte, ce que l'on voit, c'est que, en fait, pendant qu'on parle de tout ça, des procédures, etc., est-ce qu'on parle vraiment de nos deuils, de nos blessures, de comment on bricole, en fait, pour les surmonter? Et du coup, l'abolitionnisme pénal, c'est aussi cet appel-là à recentrer, enfin, de mettre aussi au centre quels sont les besoins des victimes et leurs besoins en termes de guérison. Mais quand même, je rajoute quelque chose, c'est que l'abolitionnisme pénal, et moi en tout cas dans ma façon de... Enfin, ma position n'est pas une position qui dit aux victimes il ne faut pas porter plainte. Hein. Je n'émets jamais de jugement de ce type-là, ni même de conseil. Je dis toujours les victimes se débrouillent de la façon dont elles peuvent. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie de porter plainte, même lorsqu'on est persuadé que c'est inutile ou que... Enfin, pour plein de raisons. On peut avoir plein de raisons de porter plainte. On peut porter plainte parce que dans un processus de victimation, on a besoin à un moment donné de poser un acte pour soi-même ou pour les autres parce que ça va faire partie du processus d'arrêt de ces violences ou de cette victimation. Donc, il ne s'agit jamais de dire aux victimes ce qu'elles doivent faire. Ça, il ne s'agit pas non plus de les juger. Et comme je le dis souvent, hein, une plainte ou le recours au pénal, ce n'est pas un échec individuel, hein, c'est toujours un échec collectif. Ça veut dire que collectivement, on n'a pas su apporter des ressources pour que cette personne n'ait pas besoin d'avoir recours au pénal. Et donc, dire ça, c'est aussi inviter collectivement à une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut offrir. Qu'est-ce qu'on peut offrir que le système pénal nous offre pas?
On va y revenir. J'avais quand même envie, parce que c'est votre parcours universitaire de chercheuse, il est vraiment passionnant. Et je voulais qu'on comprenne comment vous en êtes venue à défendre ces positions politiques. Vous avez commencé par faire une thèse de sociologie sur les familles et les proches des personnes incarcérées. Alors, j'ai survolé votre thèse, j'ai lu surtout l'introduction, et vous dites que faire ce choix de s'intéresser à ce sujet de recherche, c'était déjà un choix qui semblait... surprenant dans votre entourage. Alors, j'aimerais bien que vous réexpliquiez pourquoi vous avez voulu vous intéresser aux personnes, aux proches des personnes incarcérées, et puis pourquoi vous dites aussi que finalement ces personnes-là aussi sont soumises à une peine, ces personnes-là aussi sont condamnées.
Bon, c'est vrai que je me suis intéressée à la prison d'abord parce que j'ai eu l'expérience d'avoir des proches incarcérés et que j'ai eu cette expérience du parloir et que, je dois dire, j'étais assez peu féministe à l'époque, mais que l'expérience du parloir a été assez importante dans mon parcours féministe et dans mon parcours de politisation sur la question du féminisme. C'est-à-dire que, pour dire les choses assez simplement, qui va au parloir, essentiellement des femmes, et les femmes vont voir essentiellement des hommes. Et on sait qu'en prison, il y a essentiellement des hommes, donc on a une institution essentiellement pensée pour les hommes, et en même temps...
C'est 95% le chiffre d'hommes, c'est 5% de femmes, 95% d'hommes en prison.
Oui, c'est-à-dire on a ça dans la plupart des pays occidentaux, on est dans ce type de pourcentage, parce que, alors pour plein de raisons, on pourra y revenir, mais aussi parce que l'institution est d'abord pensée pour les faits qui sont commis par les hommes, hein, et qu'il y a un ensemble aussi de préjugés, le paternalisme pénal, hein, des formes d'avantages, de bénéfices secondaires pour les femmes qui sont confrontées à la justice. Mais pour en revenir au parloir, le fait de voir qu'il y avait là en fait une expérience collective de femmes et de femmes aussi qui, dans certaines prisons, je pense aux grandes maisons d'arrêt de la région parisienne, hein, de femmes bah, qui sont dans des réseaux d'interconnaissance parce qu'on a affaire à des femmes qui viennent des mêmes quartiers, qui ont les mêmes caractéristiques, hein, qui sont pour beaucoup de femmes sont à la fois issues des milieux populaires, issues de l'immigration et de l'histoire coloniale. Et cette expérience, qui était une expérience personnelle, ben, en même temps, en tant que jeune, alors à l'époque, j'étais en master, mais ce que je lisais de la recherche ben, parlait essentiellement des gens qui étaient à l'intérieur. Alors, évidemment, c'est une question qui est importante, mais avec d'autres, je pense que lorsqu'on décentre le regard, hein, qu'on ne regarde pas simplement qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de la prison ou quels sont les effets du système pénal, on a une autre perspective. Et lorsque on ne regarde pas simplement qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de l'emprisonnement de certaines personnes, ben ce qu'on voit, c'est que la prison affecte énormément la vie des femmes, enfin la vie de certaines femmes. Pour dire les choses autrement, hein, pour certaines catégories de femmes, l'incarcération d'un proche est une expérience qui n'est pas une expérience très rare, mais qui, au contraire, fait partie hein, d'une forme de... enfin, s'inscrit dans la vie des femmes, avec parfois dans l'enfance un père qui a été incarcéré ou un grand frère, et puis ensuite un petit ami, et puis plus tard un fils. Alors évidemment, tous les parcours sont pas comme ça. Enfin bon, voilà, pour dire les choses peut-être plus simplement, hein, la prison, ça n'arrive pas à n'importe qui. Et pour dans certains milieux sociaux, pour certaines catégories de la population, la prison s'inscrit dans l'histoire familiale.
Et puis vous rappelez aussi, en fait, ça m'a vraiment fait penser à tout le travail de réflexion autour du care. Enfin, il n'y a pas très longtemps, on était avec Sandra Logier dans ce même espace. Et c'est vrai qu'on se rend compte que tout le travail émotionnel, mais aussi le travail, vous parlez du linge, vous parlez du fait d'amener des choses réconfortantes, des lettres, des mots des enfants, etc. C'est encore un travail qui est complètement délégué aux femmes. C'est-à-dire que dans la prison, ce travail-là n'est absolument pas fait. Il y a un travail de surveillance, voilà, d'organisation logistique. Et on fait complètement reposer sur les compagnes, sur les épouses, sur les mères, sur les filles, sur les sœurs, à l'extérieur, le travail de care, en fait. Ça, c'est encore une fois une espèce de répartition genrée ultra patriarcale en fait des choses.
Oui, il y a tout un travail domestique qui se fait à la fois à distance et par intermittence avec la dimension du care, comme vous le dites, la question du travail émotionnel qui revient essentiellement aux femmes. Et puis, ce qui est intéressant lorsque on réfléchit à ce que fait le patriarcat dans nos vies, c'est que pour les femmes qui sont criminalisées, elles bénéficient pas des solidarités des hommes. Par exemple, des couples hétérosexuels, là où dans les couples hétérosexuels, quand l'homme est incarcéré, hein, il a des grandes chances de pouvoir compter sur la solidarité de sa compagne et des femmes de sa famille élargie. On voit pas ça du tout du côté des femmes. Au contraire, les femmes doivent faire appel à d'autres solidarités, à des solidarités féminines qui sont pour l'essentiel leur mère, leur sœur, leur copine, leurs collègues. Les hommes sont des grands absents. Alors, après, ce n'est pas quelque chose qui est très, très particulier. Ça s'inscrit évidemment dans les attentes différentielles qu'il y a dans le système patriarcal à l'égard des hommes et des femmes. On le voit par exemple avec le cas de la maladie, des hospitalisations, où les hommes bénéficient davantage de solidarité, notamment familiale, que les femmes dans les mêmes situations de maladies graves, d'hospitalisation, etc. Mmh.
On est en train de glisser doucement, je vois l'heure qui tourne à une vitesse folle vers justement ce que la prison fait aux femmes, qui est un autre aspect vraiment passionnant dans votre livre. Vous démontrez vraiment qu'il y a un statut profondément infantilisé des femmes au sein de la prison, enfin, et en plus quelque chose qu'on connaît très mal, qu'on connaît très peu, qui est peu documenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes qui maintiennent les femmes incarcérées dans cette situation d'infantilisation profondément sexiste?
Alors, ça joue à plusieurs niveaux et alors, ça fait partie des ruses du patriarcat, c'est-à-dire que les femmes sont, d'une manière générale, considérées moins responsables que les hommes dans les processus judiciaires. D'ailleurs, qu'on trouve davantage d'excuses aux femmes. Elles seraient davantage influencées par leurs émotions, elles seraient davantage émotives, elles seraient influencées par des hommes. Alors après, ce n'est pas non plus totalement faux. Lorsqu'on regarde les crimes les plus graves, on voit que c'est très rare que des femmes aient agi seules. Elles ont souvent agi avec un complice masculin ou alors dans une interaction avec un homme. Mais toujours est-il qu'il y a des formes donc, de ce qu'on appelle le paternalisme pénal, cette idée que les femmes seraient moins responsables que les hommes. D'ailleurs, il suffit d'assister à des procès. On voit que à la fois la rhétorique des avocats et des juges n'est pas du tout la même lorsqu'il s'agit d'une femme et d'un homme pour des faits similaires. Alors tout ça se traduit quand même par un petit avantage aux femmes pour un certain nombre de crimes et de délits, c'est-à-dire que les femmes purgent des peines qui sont moins longues. Mais en même temps, ça va aussi avec le fait que ces peines sont plus dures à durée égale parce que, comme je le disais précédemment, elles bénéficient moins de solidarité familiale et sociale. Donc, en clair, pour une femme, l'incarcération se traduit par davantage d'exclusion sociale, par exemple. Elles vont perdre davantage le contact avec leurs enfants que les pères incarcérés. Donc, il y a beaucoup de choses qui rendent les peines d'incarcération des femmes plus dures. Et puis, il y a cet ensemble de préjugés qui pathologisent d'une certaine façon les femmes et qui les considèrent plus comme des personnes devant être aidées, soignées, traitées que les hommes, qui sont là, on a plutôt un discours de la punition. Alors après, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important en tant que féministe lorsque on réfléchit à la criminalisation des femmes, c'est que les femmes qui sont criminalisées, du point de vue de leurs caractéristiques sociales, elles ressemblent beaucoup aux hommes qui sont criminalisés. C'est-à-dire que les femmes comme les hommes viennent essentiellement des milieux populaires, ils sont issus de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui se retrouve en prison. Après, il y a une différence importante entre les hommes et les femmes qui sont en prison. C'est la question des violences à caractère sexuel et des violences conjugales. C'est-à-dire que, alors là aussi, les chiffres sont assez différents et je crois que c'est on n'a pas de statistiques, par exemple, pour la France, mais il y a un vrai savoir sur ce sujet, c'est que c'est une caractéristique des femmes qui sont en prison d'avoir été très largement victimes de violences à caractère sexuel et ou victimes de violences conjugales. Cette question, elle est extrêmement importante parce que là aussi, ça fait référence à un angle mort des mouvements majoritaires féministes qui, lorsqu'ils parlent de la victimation sexuelle, ne parlent jamais d'une des conséquences de la victimation sexuelle qui est des parcours d'exclusion sociale, des parcours de désaffiliation qui vont amener, pour certaines femmes, à être criminalisées. En fait, quand on parle de cette surreprésentation des femmes victimes de violences à caractère sexuel ou des femmes victimes de violences domestiques parmi les femmes qui sont incarcérées, on ne dit pas qu'elles sont en prison parce qu'elles se sont défendues. Donc, les femmes qui sont en prison ne sont pas toutes des Jacqueline Sauvage. Vous vous souvenez sans doute du cas de Jacqueline Sauvage.
Femme qui avait tué son mari après avoir été victime de violences conjugales pendant 30 ou 40 ans et qui a été condamnée et finalement graciée au prix de nombreuses mobilisations féministes.
Voilà. Donc, on ne dit pas que les Jacqueline Sauvage sont plutôt des cas très exceptionnels. Par contre, pour beaucoup de femmes en prison, le fait d'avoir été victime à un moment donné a façonné leur parcours, a fait qu'à un moment donné, par exemple, elles se sont retrouvées sans domicile, dans une situation d'errance, dans de la consommation de certains produits, dans des formes de survie, de marginalité sociale, et qu'à un moment donné, il y a eu des actes qui sont criminalisés. Et du coup, c'est, à mon sens, une question qui est importante lorsqu'on parle de la victimation, qui est la question des ressources financières, des ressources sociales qu'on donne aux femmes. Là, il y a la question du pouvoir qui est en jeu. quel pouvoir on donne aux victimes.
On retombe sur une réflexion aussi concernant la justice transformative, parce que vous soulignez que bien souvent, ces femmes-là vont se retrouver en bout de parcours en prison, et c'est là que soudain, on va leur proposer un psy, on va leur proposer une assistante sociale, on va leur proposer une formation, on va leur proposer une désintoxication de leur addiction. Et ça paraît complètement absurde d'attendre qu'elles soient tombées dans le délit, dans le crime et donc en prison pour enfin leur apporter une aide qui devrait être en fait pensée bien en amont pour leur éviter d'arriver à ce stade-là. J'ai trouvé ça vraiment limpide et ça me fait penser à cet argument que vous avancez, qui moi m'a vraiment scié, vous parlez de paresse sociale. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect que je trouve extrêmement pertinent ?
Oui, je pense que vous faites référence à cette idée que la prison, le système pénal, c'est la façon la plus simple et donc assez paresseuse de régler les problèmes. C'est quand même assez troublant de se dire que, si on regarde l'histoire des mouvements féministes depuis les années 70, il y a ces appels incessants à davantage de criminalisation des auteurs. Mais en fait, où sont les preuves que ça marche ? Où sont-elles, en fait ? Enfin, c'est pas comme si c'était hier qu'on venait de nous sortir et on a une idée si on mettait les violeurs en prison. Non. Ça fait très longtemps. Alors, très longtemps, sans certitude que ça fonctionne. Bon, voilà, quand les abolitionnistes disent le système pénal, ça ne fonctionne pas, en fait, on dit que ça ne fonctionne pas déjà au niveau du nombre de faits qui sont commis. Je suis désolée, mais si je prends juste que la question des viols, qui sont qu'une partie des violences faites aux femmes, au moins 50 000 viols par an, c'est un échec total, c'est faire un pont qui s'écroule à chaque fois qu'il y a un poids lourd qui tombe. On devrait tout arrêter et se dire, mais c'est, là ça fait 50 ans, que la solution qu'on propose ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas ce qu'on appelle en termes de prévention générale, on sait que ça ne fonctionne pas pour prémunir la récidive, puisque certes les personnes qui sont auteurs de violences à caractère sexuel récidivent moins que d'autres types d'auteurs, mais lorsqu'ils récidivent, ils récidivent essentiellement sur ce type de délit et de crime. Donc le passage par la prison ne fonctionne pas pour ces auteurs-là, puis ça fonctionne vraiment pas bien pour les victimes, et en fait, on nous dit on va continuer à faire ça. Il y a un problème.
En fait, la prison et le système pénal, c'est quelque chose de tout récent dans l'histoire de l'humanité. On a tendance à vouloir naturaliser cette idée qu'on enferme les méchants, on les met à l'écart de la société, comme si c'était de tout temps les hommes qui avaient fait ça. Et en réalité, comme par hasard, c'est quelque chose qui coïncide aussi avec la colonisation, avec l'avènement du capitalisme et avec, en quelque sorte, l'avènement du patriarcat. Enfin, est-ce que c'est un petit peu trop résumé de vouloir mettre les choses dans un même bloc comme ça ?
Non, évidemment, vous le dites, il y a une histoire du système pénal et c'est une histoire qui est relativement récente. L'institution de la prison est une histoire aussi récente. Alors après, il y a des débats historiques. Quand est-ce qu'on peut dire vraiment que la prison naît ? Mais on est quand même d'accord pour dire qu'elle a quelques siècles et qu'elle naît essentiellement en Europe occidentale, puis en Amérique du Nord. Et puis qu'ensuite, le modèle de la prison se diffuse, notamment via la colonisation, et est imposé à travers la colonisation beaucoup de cultures. Et cette histoire, elle est importante de l'avoir à l'esprit si on veut réfléchir autrement, parce que le fait que dans l'histoire de l'humanité, on ait à un moment donné décidé de déléguer nos conflits, le mal qui nous est fait, nos blessures, et de finalement accepter que ce soit l'État qui définisse ces blessures, ce mal, etc., c'est quelque chose qui est en fait lié à un moment historique. Et donc, les abolitionnistes pointent à la fois cet aspect historique du système pénal et de la prison. Ils pointent aussi le fait que ce système pénal est imposé à des cultures qui avaient des modes de résolution de leurs conflits, de prise en charge des torts, des préjudices qui étaient faits au sein de leur communauté. Et donc, l'abolitionnisme pénal, c'est quelque chose qui revient souvent, est aussi un appel à imaginer, pas imaginer un retour vers le passé ou s'approprier des fonctionnements d'autres cultures, mais plutôt à dire, mais en fait, non seulement dans l'histoire de l'humanité, le recours au pénal a été très marginal, mais en fait, on peut imaginer plein d'autres façons de faire. Et là où parfois les gens peuvent avoir une forme de timidité par rapport à cette idée d'abolir le système pénal, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une sorte d'impensé, on a l'impression que c'est normal, qu'on attend du système pénal de pouvoir faire son deuil, etc. Les abolitionnistes rappellent que, en fait, dans nos vies quotidiennes, on met en place plein d'outils pour résoudre des conflits, surmonter des blessures, sans faire appel à des tiers et sans faire appel en particulier au système pénal. Et ce que disent les abolitionnistes, c'est que très souvent, plus les liens, plus les personnes nous sont chères, bah plus on fait preuve d'imagination pour ne pas recourir au système pénal. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit bien dans le cadre des violences sexuelles intrafamiliales, hein, c'est que si c'est si dur de les déléguer au système pénal, c'est bien qu'on a affaire à des liens qui sont complexes. C'est beaucoup plus rare d'avoir des réticences à aller porter plainte parce que votre voiture a été volée. Si c'est par un inconnu, vous ne vous posez pas tellement de questions. En plus, vous voulez faire marcher l'assurance, etc. Dès qu'on a affaire à des personnes qui nous sont proches et donc à la complexité des liens sociaux, ça oblige souvent à voir les choses autrement. Et donc, les abolitionnistes disent à la fois, regardons cette courte histoire, regardons toutes les autres façons qu'il y a eu de faire, et puis imaginons autre chose que le système pénal, puisque le système pénal répond assez mal à nos besoins, qui sont des besoins de protection, de reconnaissance, etc.
C'est tellement passionnant, et c'est vrai qu'en vous écoutant, on se rend compte que finalement, la réflexion abolitionniste pénale, c'est une réflexion de temps long, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas, demain, on va pas être arrivé au gouvernement en disant, allez, c'est fini, on ferme les prisons, on arrête les procès, enfin, c'est vraiment quelque chose, une perspective de réforme très profonde de la société. Je vous ai entendu dans une interview dire que ça pouvait peut-être prendre 3-4 générations pour vraiment arriver à un nouveau système, à cette justice transformative que vous appelez de vos voeux. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Est-ce qu'il est possible de réformer la police? Est-ce qu'il est possible de réformer la justice?
Alors oui, c'est tout à fait possible de les réformer. D'ailleurs, ils ne font que se réformer, hein, ils ne font que ça. Et d'ailleurs, ça fait bien partie de leur discours de légitimation. La police comme la prison se défendent contre les attaques qui leur sont faites en acceptant ce discours réformiste et en acceptant cette idée qu'il y aurait des anomalies, des dysfonctionnements. Et c'est... un des apports de l'abolitionnisme pénal, de dire, bah en fait, plutôt que de voir la police ou la prison sous l'angle de certains dysfonctionnements, hein, comme par exemple, il y a des violences policières, hein, ou il y a des policiers qui sont racistes, ou les tribunaux condamnent davantage les personnes noires que les personnes blanches. Vous voyez, tout ce discours qui est de l'ordre de l'anomalie et de quelque chose que l'on pourrait réparer, les abolitionnistes disent, mais au contraire, la prison comme la police fonctionne parfaitement bien, ce pourquoi elles sont attendues, c'est-à-dire hein, comme soutien au système capitaliste, au patriarcat, au suprématisme blanc. Donc, elles font partie, ces institutions font partie de ce système-là. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut dépenser beaucoup d'énergie dans la proposition de réformer ces institutions et croire que la police pourrait être moins raciste, que la prison pourrait être plus juste, que les décisions de justice pourraient être moins sexistes, moins classistes, etc. Pour ma part, je pense que c'est quand même essentiellement une perte d'énergie, voire pire, que ça participe à légitimer l'institution. Alors après, on peut avoir un discours un petit peu plus nuancé, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans les mouvements abolitionnistes nord-américains, et notamment tout ce qu'il y a eu suite, enfin, la visibilité des mouvements pour le définancement de la police aux États-Unis, Defund the Police, qu'il y a eu après le meurtre de George Floyd, c'est cette idée qu'il y aurait, pour dire les choses vite, des réformes réformistes et des réformes non réformistes. Hein, et donc, on pourrait, d'un point de vue militant, s'organiser pour promouvoir des réformes qui affaiblissent les institutions. Bon, on peut avoir évidemment d'autres points de vue sur cette question et se dire qu'on ne sort pas vraiment du cadre réformiste si on ne pointe pas non plus clairement le système capitaliste, le suprématisme blanc et le patriarcat dans ces approches hein, qui nous proposent à très long terme une abolition du système pénal sans finalement abolir les systèmes qui marchent avec lui.
Vous citez Foucault hein, dans votre livre, on comprend bien en vous écoutant que la prison, le système pénal, c'est des outils de contrôle social. Et c'est intéressant parce qu'on vient de vivre une situation particulière en 2020 qui semble devoir se prolonger en 2021 avec cette pandémie qui a confiné les gens et qui a ajouté un certain nombre de lois sur qui doit être dehors, qui peut être dehors, qui ne peut pas. Et comme par hasard, pendant cette période, on a vu monter la contestation, les mouvements sociaux contre les violences policières. Est-ce que pour vous, c'est un hasard ? Est-ce que pour vous, c'est lié ? Comment vous avez observé tout ça depuis votre point de vue d'experte et de chercheuse ?
Alors, ce que je vois, d'abord, c'est quand même un travail militant depuis très longtemps. Hein, qu'il n'y a pas, que les choses ne se cristallisent pas d'un coup. Du côté états-unien, la critique radicale de la police existe depuis très longtemps. Je ne suis pas une historienne des mouvements sociaux, mais lorsqu'on regarde un petit peu quand même ce qui s'écrivait, par exemple, du côté des Black Panthers, vous voyez qu'il y a des critiques qui vont vraiment au cœur de la police, de la prison, hein, de la même manière, c'est-à-dire des approches radicales. Alors après, évidemment, avec plein de reformulations hein, depuis lors, mais on n'a pas affaire quand même à une… Enfin, il ne faudrait pas penser que ce qui s'est passé ces 6 derniers mois aux États-Unis, c'est une nouveauté absolue. Hein, ça s'inscrit dans des luttes depuis longtemps, dans des réflexions depuis longtemps. Alors après, ce qui est peut-être un petit peu nouveau dans les formulations, en tout cas depuis 2010 aux États-Unis, c'est qu'auparavant, on avait quand même plutôt… un mouvement contre les violences policières et puis de l'autre côté des abolitionnistes et que aujourd'hui cette distinction existe beaucoup moins et que du coup la question de l'abolition de la police ou de l'abolition du système pénal est beaucoup plus largement discutée que ça l'était auparavant. Il n'y a pas eu une invention radicale cette année. Vous avez cité Angela Davis. Angela Davis a participé à la création de Critical Resistance en l'an 2000, principale organisation abolitionniste aux États-Unis. Et quand Critical Resistance est créée, ça n'arrive pas non plus comme ça par hasard. Hein. Il y a auparavant encore une autre génération d'abolitionnistes qui ont travaillé pour en arriver à ce qu'il y ait des centaines de personnes qui constituent cette organisation.
Ouais, merci, ces rappels sont importants. Je pensais aussi à ce qui s'est passé en France, parce que c'est vrai que la loi sécurité globale est sortie, a été votée dans un certain contexte aussi, qui a permis aussi peut-être de justifier d'un seul coup qu'on donne plus de pouvoir à la police, qu'on interdise de les filmer, parce qu'il est très important de maintenir l'ordre dans une situation de crise sanitaire comme telle qu'on connaît, de faire passer l'idée qu'on va pouvoir utiliser des drones pour surveiller les gens. Enfin, c'est aussi à ce moment-là qu'en France, on a vu sortir, et d'un seul coup, se retrouver dans la rue vraiment clairement pour lutter contre des pouvoirs supplémentaires donnés à la police et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de tourner dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, on sait pas très bien mais il y a un véritable tiraillement, j'ai l'impression en ce moment qu'on serait en train de vivre. Est-ce que vous partagez cette impression?
Oui, alors c'est vrai que je suis les mobilisations en France de très loin, mais il y a quand même une évidence que les mobilisations autour de cette loi ont été extrêmement importantes et que ça va aussi avec, en tout cas ce que j'observe, une plus grande politisation de la question de la police en France, vu quand même une prolifération de textes, d'analyses et puis des évolutions un petit peu de position qui me semblent assez intéressantes. Alors après, à voir hein, ce que ça va donner, il y a évidemment en tout cas de ma perspective, certaines craintes, notamment cette fixation qu'il y a autour de l'image, qui me semble, en tout cas qui me préoccupe, parce que cette idée que l'image permettrait d'éviter le crime, ou en tout cas qu'il permettrait de protéger contre le crime. Alors, non seulement ça me paraît extrêmement naïf, assez parcellaire, puisque ça met aussi de côté beaucoup de types de victimes, hein, et que là encore, on crée une forme de hiérarchie entre certaines victimes, les bonnes victimes qui ont des images et des victimes qui n'en auraient pas. Alors que bon, je pense que la question, ce n'est pas simplement celle des victimes de crimes policiers, mais c'est aussi les victimes des crimes d'État. Et donc, ça inclut aussi, par exemple, les personnes qui sont victimes de crimes pénitentiaires, pour lesquelles il y a encore moins de raisons d'avoir des images. Donc, ce qui m'inquiète là, et comme dans toutes ces formes de mobilisation, c'est finalement d'avoir pas une solidarité de toutes les victimes, mais de mettre en avant certaines victimes. Et je pense que lorsqu'on se bat contre un système, et là, en l'occurrence, contre la police, il faut avoir à l'esprit toutes les formes de victimes, hein, les victimes qui ne sont pas toujours des victimes idéales, pour reprendre une expression qui revient beaucoup dans la réflexion critique de l'abolitionnisme pénal. C'est que si on veut être vraiment du côté des victimes, il faut bien souligner que toutes les victimes ne sont pas des victimes innocentes, qu'il y a aussi des victimes en prison. Et donc, cette idée que l'image pourrait nous sauver, hein, et donc on participerait finalement à la banalisation des images et de notre propre surveillance, ça m'inquiète beaucoup. Et puis ça m'inquiète aussi parce que ça permet, dans les mobilisations, qu'il y ait certaines catégories qui soient plus visibles que d'autres. Et je comprends l'inquiétude des journalistes par rapport à leur travail. C'est évidemment une préoccupation, mais c'est qu'une des préoccupations que j'ai par rapport à cette loi. Je suis bien davantage préoccupée de l'existence de la police en général.
Alors, je vois passer des questions, et c'est des questions qui sont très très larges. Je vais quand même en prendre deux. Est-ce qu'en fait, vous avez aussi une critique sur la loi, parce que quelqu'un souligne que finalement, ce sont les lois qui permettent de punir les gens, de les mettre en prison, qui reconnaissent aussi ce qu'est un viol. Est-ce que pour vous, les lois sont aussi inutiles que les prisons ?
Au sens propre, l'abolitionnisme pénal, c'est bien l'abolition du système pénal. Et le système pénal, c'est la définition par l'État d'infraction, c'est-à-dire que certains actes sont interdits et sont punis. Et donc, en tant qu'abolitionniste, la critique, le projet d'abolition se porte aussi sur la loi pénale, sur la définition de certains actes comme étant des infractions. Alors après, pour de multiples raisons, et notamment parce que la loi et donc la définition de certaines infractions ne correspondent pas aux préjudices qui sont vraiment expérimentés par les individus. Pour dire les choses autrement, les catégories pénales rendent assez mal nos expériences. Alors évidemment, l'exemple auquel on pense le plus naturellement, c'est que les préjudices qui sont les plus importants, qui structurent la vie des individus, sont liés à des systèmes de domination, hein, comme le système capitalisme, le suprématisme blanc, hein, et il n'y a jamais personne qui passe en procès, il n'y a pas le grand chef du suprématisme blanc ou le grand chef du capitalisme, et pourtant, ces systèmes d'oppression ruinent la vie de millions de gens, voire de milliards de gens à l'échelle de l'humanité. Et donc, la pensée abolitionniste nous dit, mais en fait, ce que le système pénal nous propose de voir comme des préjudices, dans certains cas, bien sûr que ça porte préjudice, lorsqu'on parle, par exemple, du viol ou d'une agression, etc., bien sûr que ça porte préjudice aux individus, mais en même temps, ça nous détourne des préjudices qui sont des préjudices de masse, avec ce qu'on va appeler des rapports de domination, des inégalités structurelles. Alors, après, pour répondre à cette personne, il y a dans les mouvements abolitionnistes et les pensées abolitionnistes un certain nombre de débats. Pour certains courants, il y a un appel à ce qu'on pourrait appeler civiliser le droit pénal, c'est-à-dire, on pourrait dire remplacer le droit pénal par le droit civil, hein, et faire en sorte qu'on ait des... c'est notamment la position de Lucullsmann, avoir des formes de tribunaux qui ressembleraient à ceux qu'on a pour le droit civil. Et donc, pas des personnes qui soient accusées, mais des personnes dont on reconnaîtrait l'existence d'un contentieux. Cette idée qu'on ne ferait pas référence à la définition par l'État de qu'est-ce qui vous porte préjudice, mais plutôt d'apporter au tribunal son propre contentieux. Alors après, il y a d'autres façons de penser cela, mais pour revenir à la question qui était posée, oui, il y a dans la réflexion abolitionniste une critique de la loi, une critique du rôle de l'État dans la définition de nos préjudices.
D'ailleurs, ça rejoint un petit peu une autre question que je trouve intéressante. Une personne qui dit, je pense au système juridique autochtone au Canada. Est-ce que vous avez d'autres exemples de systèmes juridiques qui traitent, alors elle emploie le mot infraction, je pense que vous emploieriez peut-être plus le mot préjudice, et qui ne soit pas pénal.
Oui, toutes les sociétés humaines ont des façons de résoudre, en tout cas de réagir à des comportements lorsque les individus ne se conforment pas aux normes. Le système pénal, c'est juste une façon de prendre en charge certains comportements déviants. Mais en fait, la catégorie des crimes, délits, infractions, donc ce qui est pris en charge par le système pénal, et de l'autre côté, la catégorie déviance, comportement déviant, ce ne sont pas deux catégories qui coïncident totalement. Évidemment, si je vous parle du meurtre, dans la plupart des cultures, mais encore une fois, il faut voir les circonstances, le meurtre, c'est considéré donc, par la plupart des gens comme un comportement déviant. Mais donc, lorsqu'il y a un meurtre, bon, bah, voilà, généralement, on est d'accord pour dire que c'est un comportement déviant. Et puis, le système pénal aussi, hein, souvent, dit que c'est un comportement, que c'est une infraction, et donc, on a des catégories qui coïncident. Mais évidemment, il y a plein de cas où les catégories ne coïncident pas, voire il y a des comportements qui sont considérés comme des infractions par l'État, mais qui ne vous font pas préjudice. Par exemple, si vous achetez de la drogue, enfin un produit stupéfiant, vous faites du tort à personne, sauf à l'État, puisque l'État ne va pas toucher la TVA, mais a priori, vous vous rendez un service. Hein. Si je vais acheter du cannabis chez un agriculteur, on se rend service mutuellement. Bon, bah, dans beaucoup d'États, c'est interdit. Donc voilà, c'est un comportement qui ne fait pas préjudice, mais qui est pourtant criminalisé. Donc, pour revenir à cette question sur le système autochtone, effectivement, hein, pourquoi on en parle souvent dans l'abolitionnisme pénal, c'est qu'ils ont été des sources d'inspiration pour les pratiques abolitionnistes. D'ailleurs, pas que les autochtones sur le territoire canadien, il y a aussi les populations autochtones d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui ont été des grandes sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que les contextes militants de reconnaissance, de lutte pour la reconnaissance de ces cultures des Premières Nations, il y a eu la reconnaissance que l'imposition aux cultures autochtones ou aux Premières Nations du système pénal et du système de la prison s'inscrivait dans les violences coloniales. On avait affaire à des cultures qui étaient des cultures du consensus de la résolution collective des problèmes, donc souvent avec des systèmes de prise de parole. Chez les autochtones, il y a aussi ce système des loges de guérison. Donc, bon, voilà, certains nombres de rites qui étaient propres à leur culture et qui existent encore et qui expliquaient notamment pourquoi, pour les autochtones, l'incarcération était beaucoup plus difficile que pour les Blancs, hein, puisque ça venait aussi heurter tout un système de valeurs et de la façon dont culturellement ils pensent et ils expérimentent la blessure et la guérison. Et du coup, les réflexions anticoloniales et les réflexions abolitionnistes ont participé de la reconnaissance, à la fois au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, d'exception au sein du système pénal, c'est-à-dire la possibilité pour certaines populations autochtones, dans certaines circonstances, de ne pas faire appel au système pénal mais de faire appel à des systèmes traditionnels. Et c'est notamment pour cela qu'au Canada, il y a eu l'instauration à partir des années 80, donc de ce qu'ils appellent les loges de guérison. On a eu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, ça n'a pas été limité aux populations des Premières Nations, mais ce qui s'appelle des conférences familiales, hein, et qui donc calquent des façons de faire des Premières Nations, hein, qui sont, en gros, bah, au lieu d'envoyer une personne devant le juge, on a plutôt la famille élargie, la communauté, qui sont impliquées dans des discussions, des formes de réparation. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rôle des cultures autochtones, et je pense que c'est toujours aussi un rappel important à faire, bah, des dommages qui ont été portés à ces cultures et à ces populations, à la fois donc, à travers la colonisation de peuplement, et puis l'imposition de ce système pénal, hein, avec une surreprésentation de ces populations dans les systèmes carcéraux. C'est ce qu'on observe dans tous ces pays.
Je recommande vraiment à tout le monde de lire le livre. Je vais vous poser les deux questions rituelles de la poudre avant de conclure. Gwenola Ricordo, c'est pour quand la révolution ?
Ben, on y est là, on est en train d'y travailler, non ?
Et ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
La poudre, ah ben c'est la lutte armée. Enfin, on ne fera pas la révolution sans être armé, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit... armée idéologiquement et puis armée parce que la révolution, elle ne se fait pas sans prendre les armes à un moment donné. Il n'y a pas de révolution pacifique. Hein.
La réponse la plus radicale que j'ai eue à cette question, mais ça ne m'étonne pas de vous, Gwenola. Merci mille fois d'avoir pris ce temps d'échange avec moi, avec nous. Merci à tout le monde d'avoir été si nombreux à se connecter. Merci encore au Carreau du Temple. Merci à Nina et Laura. Merci beaucoup d'avoir interprété cette rencontre encore une fois. Et merci encore à vous, Gwenola.
Ben, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci aux interprètes. J'étais très contente de savoir qu'il y avait cette interprétation aussi.
Prenez soin de vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir.
Merci. Bonne journée.
Merci à Gwenola Ricordo d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.